c'est sur l'Ashbrae qu'une première personne a été tuée. Il s'agissait de Günther Littfins, c'était le 24 août 1961. Il a essayé de nager et après une ou deux sommations, les gardes côté est lui ont tout simplement tiré dessus. C'était le premier des quelques 163 ou 165 personnes qui ont été tuées en essayant de franchir le mur de Berlin.
Il y a tout juste 30 ans, Eric Biegala faisait partie des reporters qui se sont précipités à Berlin quand ils ont appris que le mur était enfin en train de tomber. Un mur que les Allemands de l'Est par centaines avaient tenté de franchir, parfois à la nage, en traversant l'Ashbrae, la rivière de la capitale allemande. Pendant 28 ans, ce mur coupera en deux la capitale, symbolisant à lui seul cette guerre des deux mondes qui a structuré la planète après la Seconde Guerre mondiale. À Berlin, 140 personnes ont trouvé la mort, le plus souvent abattues par les soldats est-allemands. Mais c'est bien sur toute la longueur du rideau de fer que par milliers et au péril de leur vie, les habitants de l'Est ont tenté de passer à l'Ouest, déployant parfois des trésors d'ingéniosité. Certains ont même réussi à passer en tyrolienne, de pylône en pylône, sur des lignes électriques.
Vous vous êtes donc allé comme ça?
On est descendu au pylône suivant.
Il n'y avait pas d'autre obstacle?
Absolument aucun. Parce qu'ils étaient tellement persuadés que personne ne pouvait passer que de l'autre côté, les gardes ne servaient à rien.
La tentation de l'Ouest avait de nombreuses motivations, idéologiques, économiques et même sentimentales. Pour avoir tenté par amour de quitter l'Allemagne de l'Est, on pouvait se retrouver emprisonné et même torturé. Les pouvoirs de la Stasi, le ministère de la Sécurité de l'État, étaient pratiquement illimités.
Je voulais me marier avec Antonio, qui disait que si nous restions en DDR, il perdait tous ses droits de liberté et que jamais ni ses amis ni sa famille ne pourraient me rencontrer. C'est la raison pour laquelle je voulais pouvoir sortir.
Berlin, derrière le mur, la liberté. C'est un reportage d'Éric Biegala avec Frédéric Kérou à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Personne ne sait ce que la Russie soviétique et son organisation communiste internationale a l'intention de faire dans un futur proche. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent.
L'expression « rideau de fer » a été employée pour la première fois par Winston Churchill. En 1946, il n'est plus Premier ministre, mais auréolé de son prestige de vainqueur de la guerre, il donne des conférences, ici à l'université de Fulton, dans le Missouri. En fait, le vieux lion se trompe. Le rideau de fer ne va pas couper l'Europe entre la Pologne et l'Italie.
L'Allemagne se prononce sur son avenir.
C'est l'Allemagne qui va faire les frais de la partition idéologique.
La population doit
à l'ouest, création de la Bundesrepublik Deutschland. À l'est, sous la houlette de l'Union soviétique, ce sera la Deutsche Demokratische Republik. Dès 1952, la frontière entre ces deux Allemagnes se ferme. Trop d'Allemands de l'Est partent vivre à l'ouest. Berlin, enclavé en Allemagne de l'Est, devient le dernier point de passage possible. On y circule encore librement entre les secteurs administrés par les armées des vainqueurs de la guerre. Les Allemands de l'Est s'y précipitent. Jusqu'en 1961, 2 millions d'entre eux passent par Berlin, 200 000 dans les 6 premiers mois de 1961. Le régime de l'Est ne peut plus tolérer cette hémorragie. Le 13 août, les Berlinois découvrent, stupéfaits, une barrière physique qui coupe leur ville en deux. D'abord, il y a des rouleaux de barbelés gardés par des hommes en armes. Puis, progressivement, un véritable mur est érigé.
Voyons maintenant quelle est la situation à Berlin même. Après le rideau de fer, après le rideau de barbelé qui sépare les deux zones depuis quelques jours, les communistes viennent de dresser une sorte de rideau de ciment.
Oui, pour le moment, ils divisent la Potsdamerplatz en deux. Mais il n'est pas impossible que les Vopo en construisent d'autres.
Dans un premier temps, ce coup de force ne suscite guère de réaction en Occident. Malgré les protestations de Willy Brandt, le bourgmestre de Berlin, qui deviendra plus tard le respecté chancelier d'Allemagne fédérale, il existe bien désormais un Berlin-Est. À l'ouest, Dans le contexte de guerre froide, les troupes alliées continuent leur patrouille.
Nous sommes de nouveau en mission avec l'une des patrouilles françaises qui surveille la nouvelle frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Pour celui qui arriverait à Berlin maintenant et qui arriverait de France avec les journaux qu'il aurait pu lire en France, la situation paraîtrait absolument normale, hein. Pratiquement comme avant.
Pourtant, dès le mois d'août 1961, des Allemands perdent la vie en tentant de passer à l'ouest. Berlin va progressivement devenir le symbole de la lutte de deux mondes qui s'affrontent. La prise de conscience occidentale peut être symbolisée par le fameux discours du président américain John Fitzgerald Kennedy à l'hôtel de ville en présence de Willy Brandt et devant une foule occidentale galvanisée.
Il y a 2000 ans, la plus grande fierté était de dire « Je suis un citoyen romain ». Aujourd'hui, dans le monde de la liberté, la plus grande fierté est de dire « Ich bin ein Berliner ».
Alors, parallèle à la Bernauer Straße, donc s'étendait ce mur d'une épaisseur de pratiquement 50 mètres. Alors, si on partait de l'Est pour essayer de le traverser en allant vers l'Ouest, que je vais essayer de faire, il fallait commencer par escalader ce qu'on appelle le Hinterlandmauer, le mur intérieur, qui faisait quand même quelque chose comme 2,50 m. On arrivait là à ce qu'on appelle la Signal Zone. Donc là, c'était une barrière avec de l'électricité qui signalait quand l'objet était touché. Ensuite, on avait un espace de, disons, une dizaine de mètres. Puis on arrivait sous la lumière de lampadaires géants qui devaient éclairer comme en plein jour. Ensuite, on traverse une petite bande de béton qui servait à faire les patrouilles. Ensuite, on a une bande relativement large qui était, je crois, recouverte de sable, ce qui permettait en fait de repérer si il y avait des passages qui avaient été tentés. Et enfin, l'obstacle le plus important, c'était le mur lui-même, 3,60 m de haut, en béton armé et recouvert d'une structure ronde qui permet d'empêcher quiconque de s'agripper. Et si on arrivait à passer cette dernière défense, on arrivait là où je me trouve actuellement, c'est-à-dire sur la Bernauer Straße à l'ouest. À Bernauer Straße, la rue Bernauer, l'un des exemples les plus connus et les plus fous de cette séparation, la limite entre l'Est et l'Ouest, c'est la façade des immeubles d'un côté de la rue. Les gens qui habitent là habitent à l'Est, quand ils sortent sur leur trottoir, ils sont à l'Ouest. Les portes d'entrée sont donc vite murées, de même que les fenêtres du rez-de-chaussée. Une barrière de parpaings, de briques, de béton commence à s'ériger en plein centre de Berlin, sur près de 44 km de long, du nord au sud, un mur. Ce jour-là, Joachim Rudolph n'est pas à Berlin.
On était
dans un camping sur l'île de Rügen, sur la mer Baltique.
Étudiant en mécanique dans l'une des écoles techniques de la jeune République socialiste, il est en vacances.
Und dort hörten wir über die Lautsprecheranlage, dass in Berlin jetzt die Grenzen geschlossen sind.
Au matin, après la nuit du 13 août, au matin, les haut-parleurs du camping ont diffusé un message disant que une frontière intérieure à Berlin était établie et que maintenant le socialisme allait pouvoir se développer sans l'intervention des agents américains. On
ne
l'a pas cru, on ne croyait pas. Trois jours après, en fait, on a plié la tente parce que les deux amis qui étudiaient à Berlin-Ouest étaient inquiets et voulaient absolument voir ce qu'il en était et savoir ce qu'ils allaient devenir. Donc on a plié la tente, on a pris notre vieille voiture et on est arrivé à Berlin dans l'obscurité le soir. Et on est venu en premier vers la Bernauer Straße parce que c'était un coin qu'on connaissait bien. On y venait régulièrement à vélo, on y allait au cinéma. Au lieu des deux policiers, il y avait à cet endroit 5 ou 6 soldats avec mitrailleuses
Dann sahen wir auch einen Stacheldrahtzaun, der quer über die Straße.
Et une rangée de barbelés qui courait tout le long de la rue. Un soldat qui se met à crier que c'est une zone frontière, qu'ils doivent faire demi-tour et que s'ils n'écoutent pas immédiatement, ils ont le droit de faire usage de leurs armes. Fin août, il y avait déjà 6 fuyards qui avaient été abattus. En 15 jours.
Und die haben mir erzählt, Mensch, hast du schon gehört, wir müssen uns schriftlich verpflichten.
En fait, en septembre 61, on discutait avec les autres étudiants et ce qu'il y avait de nouveau et qui n'était pas très plaisant pour nous, c'était que en fait, il fallait qu'on s'inscrive pour le service militaire qui devenait obligatoire. Parce que tout simplement, l'armée populaire de l'Est n'avait plus assez de volontaires.
Là, vous décidez de sortir, de passer à l'Ouest ?
Bleibe ich hier oder schließe ich mich meinem Freund an und nach zwei, drei weiteren schlaflosen Nächten habe ich zu meinem Freund gesagt, pass
auf. J'ai proposé aux amis de faire ça ensemble, de chercher une solution ensemble et de passer ensemble à l'Ouest.
Und danach haben wir uns dann auf unsere Fahrräder gesetzt und sind einen großen Teil.
On a pris nos vélos et on a longé le mur.
Im Süden beginnen, Bezirk Köpenick, immer weiter in
du Sud vers le Nord pour observer.
Und Sie wissen, Berlin war geteilt und rundherum lag die DDR um Berlin.
Comme Berlin était entouré par la DDR,
als wir dann nichts mehr gefunden hatten von Ost.
En arrivant au nord du mur, on est arrivé dans en DDR.
Und kam dann eine Familienhaussiedlung.
On est arrivé à un hameau.
Grenzgebiet betreten verboten.
La rue en fait s'arrêtait. Il y avait un panneau disant Grenzgebiet, zone frontalière, ne pas aller plus loin. Mais après, il y avait une bande verte en fait.
Il y avait
un tout petit, toute petite rivière dans cette zone verte qui faisait frontière. Et on n'arrivait même pas à la voir. On a attendu une nuit couverte de nuages. Et c'était la nuit du 28 au 29 septembre 61. Et là, on a tenté de passer par ce chemin, le chemin que je vous ai décrit. Et à 23h, on est arrivé sur cette grande étendue de gazon. Et à 3h du matin, on a franchi le fleuve. Et vers 5-6h du matin, on est arrivé à des premières maisons. On ne savait pas vraiment si on était à l'ouest.
Weitergelaufen, kam ein Haus, und das war eine Feuerwache.
On a trouvé une petite caserne de pompiers où un pompier nous a dit « Ouais, bravo, vous avez réussi, vous êtes à l'ouest ».
Joachim Rudolph et ses amis se retrouvent donc à Berlin-Ouest. Ils sont parmi les premiers à passer clandestinement à l'ouest et sans trop de difficultés, finalement. Très vite, lui-même et son groupe d'amis organisent la fuite, ou peut-être peut-on déjà parler d'évasion, la fuite d'autres personnes, en plein cœur de Berlin, sur la Bernauer Straße justement, ou plutôt sous la Bernauer Straße.
Anfang 1962 sind wir von zwei Italienern angesprochen.
Début 62, en fait, il y a deux Italiens qui viennent nous parler, qui habitaient dans la même résidence que nous à Berlin-Ouest. Un de ces deux Italiens a un bon ami à Berlin-Est qui fait des études. En tant qu'Italien, il peut circuler assez librement. Il est allé le voir à Berlin-Est et en fait ce Berlinois de l'Est voudrait passer à l'Ouest et donc il commence à discuter d'une possibilité de le faire évader. Et donc vient l'idée du tunnel à ce moment-là.
Où est-ce que vous décidez de construire ce tunnel ?
L'Italien avait commencé à chercher et en fait l'endroit où il était possible de construire les tunnels les plus courts, ces endroits-là avaient été condamnés par la Stasi. Et donc on est arrivé à la Berliner Straße au numéro 78. Là il y avait une possibilité. On a trouvé au 78 un immeuble qui avait été en partie endommagé par des bombardements. Et on a demandé à ceux qui y habitaient encore s'il n'y avait pas la possibilité de louer, de disposer d'une cave assez grande parce qu'on voulait, on était un groupe de rock et on voulait répéter.
Ce tunnel, il a fallu un petit peu le concevoir. Vous étiez un tout petit peu spécialisé ou on creuse tout droit ?
On était tous étudiants, la plupart dans des domaines techniques, et on a fait un très beau tunnel avec éclairage électrique, etc. tout du long.
Vous avez creusé sur combien ?
135 mètres. Le tunnel a mesuré 135 mètres.
Et vous avez mis combien de temps pour creuser ce tunnel ? Vous étiez combien à travailler ?
5 mois, ça a duré 5 mois.
Anfang April bis Durchbruch war dann am 14. September 1962. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet. 24 Stunden jeden Tag.
24 heures sur 24.
Vielleicht 35, 40 Leute, die wussten, dass ein Tunnel gebaut wurde.
30 à 35 étudiants qui savaient. Mais en fait, il y avait peut-être il y avait qu'une petite partie qui participait effectivement, mais on travaillait 24 heures sur 24. Le tunnel faisait 90 cm de haut, donc le travail était assez pénible dedans.
Vous-même, donc, passiez votre temps à creuser ou vous installiez ?
Du début, j'ai creusé. Du début à la fin, j'ai creusé, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas.
Comment est-ce qu'on fait pour creuser dans la bonne direction ?
On a mesuré les choses. On avait les plans. On avait des instruments de mesure. On avait le théodolite. Donc avec les instruments de mesure et la carte, on s'est dirigé au bon endroit. Personne ne savait à l'est que le tunnel allait arriver là. Et on a commencé à avoir des fuites d'eau dedans. Et quand on est arrivé, il a fallu faire très vite. Très vite, on a pu faire passer 29 personnes. Ils sont passés en groupe de 2 à 4 personnes avec des temps de pause entre les passages de ces groupes d'un quart d'heure.
Also gegen 18 Uhr haben wir damit begonnen. Und gegen 23 Uhr war der letzte.
Donc on a commencé à 18h et le dernier passage s'est déroulé vers 23h. Donc ça a duré 5h.
Vous-même, est-ce que vous êtes passé à l'est ce soir-là dans ce tunnel? Et ce tunnel, après cette évasion de 29 personnes, il aurait pu continuer, servir à l'évasion d'autres personnes.
Also, der Tunnel war dann voll Wasser gelaufen.
En fait, il était envahi d'eau, le tunnel.
Et
il ne pouvait plus être utilisé.
Vous avez creusé d'autres tunnels?
J'ai participé à deux autres creusements.
Vous avez une idée du nombre de tunnels qui ont été creusés entre l'ouest et l'est?
Knapp 80.
À peu près 80 tunnels.
Die meisten sind rechts vorher entdeckt worden.
La plupart ont été découverts avant la fin de leur construction.
Dans la Bernauer Straße hat es 13.
La Bernauer Straße seule, il y a eu 13 à 14 tunnels.
Von den 13 waren 3 erfolgreich.
Et 3 seulement ont pu être utilisés.
C'est Berlin qui nous appelle. Allô Berlin?
Des évasions réussies, il y en a eu des milliers à Berlin. Mais plus le temps passait, plus le mur devenait hermétique. Les autorités est-allemandes, s'appuyant sur la Stasi, mettaient tous les citoyens sous contrôle. Alors, des réseaux se sont créés, car il fallait pratiquement se spécialiser pour déjouer la surveillance policière. Pour Interception, Eric Biegala a rencontré Burkhard Feigl. Étudiant en médecine au moment de l'érection du mur en 1961, il va aussi devenir le chef d'un réseau jamais démantelé, en quelque sorte l'évadeur en chef de l'époque.
Interception sur France Inter.
Quand je suis rentré le 13 octobre 61, un de mes copains m'a dit « Viens avec nous, on essaye de faire passer des gens vers l'ouest ». Notre association s'est établie au sein d'un foyer étudiant. On avait le listing des 450 étudiants de la Freie Universität de Berlin qui désormais étaient bloqués à l'est. On leur a demandé s'ils voulaient passer à l'ouest et tous ont répondu oui, sauf un. C'est en utilisant des documents de voyage de Berlinois de l'ouest que nous les avons fait passer. On amenait d'abord les documents à l'est, les candidats au départ se grimait pour ressembler à peu près à la photo du document d'identité qu'elle recevait et qui certifiait qu'ils habitaient à Berlin-Ouest ou en Allemagne de l'Ouest. Ils pouvaient ensuite, grâce à ce document, passer à l'Ouest. En seulement 9 jours, plus de 6000 Berlinois de l'Est ont utilisé cette astuce pour passer à l'Ouest. Mais le régime s'est aperçu qu'il y avait un truc. Il a alors interdit aux Berlinois de l'Ouest de se rendre à l'Est, supprimant cette possibilité quasi légale de s'échapper. Mais pendant ces 9 jours, des familles entières ont été réunies. Des oncles ont été chercher leurs neveux, des fils sont venus chercher leurs parents. Une fois que ça n'a plus été possible, notre réseau a essayé de faire entrer des documents grâce à des étrangers.
Qui, eux, pouvaient rentrer à Berlin-Est.
On s'est adressé aux quelques étudiants étrangers de la Freie Universität de Berlin-Ouest et on leur a demandé s'ils pouvaient nous prêter leur passeport, si leur famille, leurs amis pouvaient nous prêter leur passeport pour les transmettre à l'Est. On a été complètement bluffés par la capacité d'aide des étrangers. Au bout de 2 semaines, on avait 200 passeports suisses. Au total, on nous a prêté 1600 passeports issus d'un grand nombre de pays.
En tout, vous avez fait sortir combien de personnes avec les Ausweis des étudiants et combien de personnes avec les passeports?
C'est une statistique informelle. Mais quand on pense aux évasions, on pense d'abord au tunnel. En fait, il n'y a eu qu'environ 75 tunnels creusés à Berlin, dont 19 seulement ont fonctionné. Et en tout, ça a permis à 400 Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest. Mais ceux qui sont sortis avec des papiers, c'est 10 000 personnes. Je me souviens même d'un passeport suédois qui a été utilisé 7 fois.
Il y a eu d'autres manières de faire sortir des gens?
J'ai construit mon propre groupe d'aide. Ensuite, on a construit des tunnels. On a démonté des voitures et on a caché des réfugiés dans les armatures latérales d'une grosse voiture américaine, ce genre de choses. Je me suis dit, il faut construire une cachette dans une voiture, à un endroit où personne ne pourra imaginer que quelqu'un s'y dissimule. Je savais que ça ne marcherait qu'avec une grosse américaine. Et donc, avec un mécano, on a fait le tour des concessionnaires qui vendaient des américaines d'occasion pendant 4 jours. Le 4e jour, on a trouvé une Cadillac. Et le mécanicien m'a dit, installe-toi là, déplie tes jambes. Ouais, ça devrait marcher.
On vous les a cachés où?
Derrière le tableau de bord.
Sur toute la largeur de la voiture.
Peut-être que c'est pour vous très intéressant. Ma dernière grosse tour...
À partir de 1966, j'ai monté un coup avec un allié français. Pendant 4 ans, la Stasi n'a pas compris ce qu'on faisait. On a pu aider 150 personnes à sortir. Ce français a pu d'abord faire passer des gens dans son coffre, mais très vite, on a dû aménager un véhicule. Je peux vous le montrer en photo.
Voyons voir. Une fourgonnette Citroën ancienne. Le panier à salade, aussi le camion des postes, hein, des années 70, assez typique, en tôle ondulée, que tout le monde a bien connu.
On y a construit différentes cachettes, on pouvait y cacher jusqu'à 12 personnes.
Dans la camionnette, où c'est déjà difficile de rentrer à 12 debout.
On avait aménagé une cache au milieu des parois latérales. On pouvait caser 12 personnes sur les deux côtés. Pendant 9 ans, j'ai aidé des personnes à s'enfuir et ce coup avec la fourgonnette, c'était le dernier. C'est le moment où j'ai passé mon diplôme de médecin et où je me suis marié. C'était une bonne manière de terminer.
En 10 ans, vous pensez avoir participé ou organisé l'évasion de combien de personnes?
Plus de 650.
De simples barrières à ses débuts, le mur s'est vite épaissi. La bande de gazon et son petit ruisseau, que Joachim Rudolph et ses amis ont pu franchir sans encombre en 1961 au nord de Berlin, est devenu en 1963 un réseau de barbelés de 50 mètres de profondeur, flanqué de miradors. Une barrière vraiment dure à franchir et où l'on tire à vue. Plusieurs centaines de personnes sont mortes en essayant de franchir ce rideau de fer, abattues la plupart du temps.
Horst Kutscher, 31 years old, shot on the 15th of January, 1963.
136 morts à Berlin même et à peu près un millier si l'on tient le décompte de toutes les tentatives malheureuses ailleurs le long de ce rideau de fer.
Shot on the 24th of January, 1963.
Pour le franchir, il faut désormais déployer des trésors d'imagination et s'armer d'un certain courage. En 1986, Robert Ostwald et l'un de ses amis, Frankie, tentent l'impossible, franchir le rideau de fer sur une ligne à haute tension, une de ces rares lignes électriques qui passent d'est en ouest, et en l'occurrence, depuis la Tchécoslovaquie, où ils habitent, jusqu'en Autriche. Depuis Vienne, où nous le retrouvons, Robert Ostwald nous ramène en Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque. À quelques centaines de mètres au-delà de ce rideau de fer, la même où il l'a franchi.
C'était assez compliqué à cause de mon acolyte. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que malgré plusieurs avertissements, il avait ébruité notre projet. On est arrivé d'abord en train, et là il y avait des gens qui savaient qu'on voulait s'enfuir. Je suis donc reparti chez ma mère, qui habitait dans le nord de la Moravie, près de la frontière polonaise pour brouiller les pistes. Et le lendemain, on est redescendu en train jusqu'à Znaim, à quelques kilomètres. On a ensuite suivi les voies de chemin de fer pendant la nuit et on est arrivé jusqu'à ce pylône.
C'est la ligne en dessous de laquelle nous nous trouvons. C'est une ligne donc à très haute tension, je crois 380 000 volts, qui traversait tout l'ancien bloc de l'Est, en fait, les anciens pays de l'Est.
Oui, cette ligne était prévue pour aider les pays frères. Elle part de Pologne, elle traverse la République tchèque, à l'époque la Tchécoslovaquie, et va jusqu'en Autriche.
Vous avez conçu un moyen de franchir le rideau de fer beaucoup plus simple, finalement, une tyrolienne, c'est-à-dire tout simplement un système de poulies avec deux sièges. Mais concrètement, comment vous avez fait? Parce qu'on ne met pas une tyrolienne en métal sur un câble par où passent 380 000 volts comme ça. C'était quoi le truc?
Le truc, c'était tout simplement que tout en haut, il y a une ligne paratonnerre reliée à la terre et qui n'est pas alimentée, qui ne porte pas de charge électrique. Et c'est sur cette ligne-là qu'on s'est accroché.
Alors là, on se trouve juste en fait à l'aplomb du pylône que vous avez escaladé, sur lequel vous êtes monté. Et le pylône qui est en face, environ, je dirais, 350 mètres, 400 mètres peut-être, c'était déjà l'Autriche ?
Non, le rideau de fer, il était à l'intérieur du territoire tchèque. Une fois que vous l'aviez franchi, il y avait encore 2 km environ avant d'arriver à la frontière autrichienne.
Là, on est vraiment sous le pylône à partir duquel vous êtes monté. Comment vous avez fait ? Parce que c'est, y a pas de pente, vous n'avez pas glissé finalement, vous vous êtes... Vous êtes tiré?
On l'a fait à la force des bras, en se halant. Et puis cette tyrolienne avait un frein, parce que, en fait, quand on se hale, il faut un frein. Sinon, la tyrolienne repart dans l'autre sens.
Et vous vous êtes donc halé, comme ça?
Et on est descendu au pylône suivant. C'était une nuit d'orage. Ça n'a duré que 3 heures. Monter là-haut, se tirer à la force des bras, et redescendre de l'autre côté.
Jusque là-bas, jusqu'au pylône qu'on voit. Et jusqu'à l'Autriche, donc, il y avait quoi, à peu près 2 km encore?
Oui, notre meilleur guide, c'était la ligne à haute tension elle-même.
Il n'y avait pas d'autres obstacles?
Absolument aucun. Ils étaient tellement persuadés que personne ne pouvait passer le rideau de fer que de l'autre côté, les gardes ne servaient à rien.
Quand est-ce que vous réalisez que vous êtes en Autriche?
On a vu une pancarte en allemand, entrée réservée aux seuls riverains. J'ai dit à Franky, souviens-toi bien de cette phrase. C'est la première qu'on voit dans le monde libre.
Les évasions réussies, spectaculaires ou pas, ont alimenté la chronique. À Berlin, le musée situé à proximité de Checkpoint Charlie, l'un des rares postes frontières entre les parties orientales et occidentales de la ville, regorge d'objets divers. Du faux passeport à la valise à double fond utilisée pour passer à l'ouest. Et même les restes de la montgolfière décrite dans le film Le Vent de la Liberté.
Il y en a qui ont essayé de passer à l'ouest en montgolfière. Ils l'avaient fabriqué.
Après, il sera débarrassé.
C'est vrai ?
Oui,
ils se sont posés à quelques mètres de la frontière, il paraît. Et on ne sait pas s'ils ont été pris. Ils ne disent rien.
Ils doivent pourrir dans une cave de la Stasi alors qu'il est.
Mais la machine policière est-allemande était redoutable et les échecs, naturellement, furent nombreux. On estime à 200 000 le nombre d'Allemands de l'Est condamnés pour tentative de « République Flucht », fuite de la République. Sans même passer à l'acte, le fait d'envisager une fuite pouvait vous envoyer en prison. C'est ce qui est arrivé à Tatiana, qu'Eric Biegala rencontre ici, à côté de Checkpoint Charlie.
Je m'appelle Tatiana Sternberg et je viens de Berlin-Est, où je suis née. Et dans les années 70, je suis tombée amoureuse d'un Italien. Et à cause de cet amour, je suis allée en prison. Je voulais pouvoir sortir parce que je voulais me marier avec Antonio, qui disait que si nous restions en DDR, il perdait tous ses droits de liberté et que jamais ni ses amis ni sa famille ne pourraient me rencontrer. C'est la raison pour laquelle je voulais pouvoir sortir.
Et puis, tout est différent, parce que avec mon Ausreiseantrag bei den Behörden,
Comme j'avais fait la demande de sortie, tous les deux, Antonio et moi, étions surveillés par les autorités. J'avais un collègue qui était espion pour le compte de la Stasi et qui m'a observé. Et il m'observait, et simplement en m'observant, il a compris que nous voulions partir. Il a prévenu la Stasi et à cause de ça, j'ai été arrêté.
Vous avez été arrêté en tentant de passer ou il n'y a même pas eu besoin d'une tentative ?
Il n'y a même pas eu de tentative de fuite de notre part puisque Antonio lui a été arrêté au niveau de Checkpoint Charlie et moi j'ai été arrêté à la maison dans mon appartement et j'ai été conduite par trois hommes à Alexanderplatz où se trouvait un bureau de la Stasi. Ils m'ont posé des questions pour savoir ce que j'avais contre la DDR, pourquoi je voulais quitter la DDR. Et après cela, j'ai pu prendre un peu d'air, mais c'était pour aller direction la prison de Pankow, où Antonio est aussi allé naturellement. Et là, ils m'ont accusé d'avoir menti, ils m'ont dit que c'était faux, ils ont crié et ils m'ont dit « nous avons le temps ». J'ai aussitôt demandé à parler à un avocat. La Stasi d'emblée a dit « Non, 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 nous allons déjà faire notre interrogatoire, nos recherches, et seulement après vous pourrez voir un avocat ». La Stasi, pendant un an, m'a questionné. Il voulait absolument savoir qui nous avait aidés pour pouvoir nous juger en tant que traître et pour aussi tentative de fuite. J'ai aussi crié par la fenêtre, je voulais absolument savoir comment allait Antonio. Suite à ça, j'ai été envoyée dans une cellule d'isolement, mais je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire combien de temps je suis restée parce que les vitres avaient été obscurcies, je ne voyais pas la lumière. Et il y avait en permanence un bruit de moteur et aussi des gaz. Et j'avais peur de céder à la panique. À un moment, j'ai tapé très fort contre la porte en disant « mais laissez-moi sortir ». Et à ce moment sont arrivées trois personnes. J'ai été giflée au visage, jetée à terre, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillée, j'étais enserrée dans une camisole. Je ne pouvais plus bouger. On m'avait fait une piqûre de tranquillisant.
Finalement, vous avez été condamné.
Antonio,
en première instance, 6 ans pour Antonio et pour moi, 4 ans et 8 mois.
Et la condamnation, c'était pourquoi ?
Prise de contact avec des ennemis de l'État et tentative de fuite. En fin de compte, moi je suis restée 3 ans en prison et Antonio 2 ans et demi.
Comment est-ce que vous avez pu être libéré ?
Grâce à la mesure de l'État fédéral allemand qui nous a rachetés.
Vous savez pour quel prix ?
Pour moi, la BRD a payé 40 000 Deutschmark.
Pour Antonio ?
Et pour Antonio, je ne sais pas combien.
Tatiana a en effet été rachetée par la République fédérale. C'est aussi ce qui est arrivé à Karl Wolfgang Holzapfel. Pendant des années, cet activiste, résident à Berlin-Ouest, multiplie les pétitions, les manifestations et les protestations en face du mur. Il brandit ses pancartes réclamant la libération des prisonniers politiques sous le nez des policiers est-allemands, notamment devant Checkpoint Charlie, jusqu'au jour où il se risquera un peu trop près de la ligne de démarcation entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, et qu'il se fera arrêter par les gardes frontières. C'est d'ailleurs sur cette ligne de démarcation, à Checkpoint Charlie, que nous le retrouvons.
Nous sommes devant une photo qui date du 18 octobre 1965, le jour où je suis arrêté ici à Checkpoint Charlie. On me voit de dos encadré de 2 policiers qui m'emmènent. J'ai été conduit à la prison centrale de la Stasi. Et après un procès de 3 jours, j'ai été condamné à 8 ans de prison.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait 8 ans de prison ?
Non, après 13 mois d'emprisonnement et de longues négociations entre les deux États, j'ai été racheté par la BRD pour 90 000 marques. Les prisonniers politiques étaient normalement rachetés pour 40 000 marques. Mais comme j'étais un détenu particulier et que j'avais un passif politique aux yeux de la DDR, les négociations ont duré longtemps et les prix ont grimpé. Dans les dernières années de la DDR, le prix général de rachat des prisonniers avait monté et se situait autour de 90 000 marques pour tous les prisonniers politiques.
Si on se ramène à la période où c'est, on va dire, hermétiquement clos pour aller de l'Est à l'Ouest, il y a quelque chose comme 5 000, 6 000, peut-être 7 000 passages clandestins, tunnels, tyroliennes, tout ce qu'on veut, et 34 000 passages quasi officiels par rachat.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et en tout, pour 3,5 milliards de marques.
Vous avez vous-même donc été racheté par la BRD. Vous savez comment s'est passée un petit peu la négociation ? Vous avez su après comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé entre avocats. Le mien, c'était le docteur Vogel. Et le docteur Vogel m'a dit, pour vous, je ne peux rien tant que vous n'avez pas été jugé et condamné. C'est à partir de ce moment-là, ma condamnation, qu'ont dû commencer les négociations.
Votre représentant à l'Est, le docteur Vogel, il était quoi ? Il était chef négociateur pour la DDR ? C'est lui qui négociait les gros sous ? Ou il était vraiment votre représentant et votre défenseur ?
C'est sûr que lui aussi touchait de l'argent, venant aussi bien de l'Est que de l'Ouest. En fait, ce docteur Vogel avait la confiance des deux parties. Il était proche du patron de la DDR, Erich Honecker, mais aussi de ministre d'Allemagne de l'Ouest. Et il servait de courrier entre les deux. En fait, Vogel a non seulement servi d'intermédiaire dans des rachats de prisonniers politiques, mais il a aussi été un intermédiaire dans tous les échanges d'espions entre les États-Unis et l'URSS.
Est-ce que vous avez eu l'impression que la DDR se servait de ces rachats pour se financer en devises fortes ?
Je crois que l'Allemagne de l'Est ne pouvait pas se constituer de réserve de devises, parce qu'elle devait soutenir son économie chancelante. Et voilà, à partir du moment où ils ont commencé à vendre les gens, ils ont fonctionné dans une perspective commerciale. Les prisonniers étaient devenus des marchandises. C'est à la fin des années 70 que ce gros négoce de prisonniers politiques a vraiment commencé. Et l'effet pervers de ce mécanisme de rachat, c'est qu'il y a eu de plus en plus de prisonniers politiques en Allemagne de l'Est, justement pour servir de monnaie d'échange, au sens propre du terme.
C'était vraiment devenu une marchandise.
Oui. Et quand Franz Josef Strauß était ministre de l'Intérieur d'Allemagne de l'Ouest, il a accordé un crédit de 1,4 milliard de marques à l'Allemagne de l'Est. Ça faisait partie d'une négociation avec rachat de prisonniers.
C'est à la tête des membres du Politburo que Mikhail Gorbatchev est venu s'incliner devant la dépouille du président défunt, exposée dans la salle des colonnes de la maison des syndicats, présentant ses condoléances à la veuve de l'ex-secrétaire général et aux membres de sa famille. Le nouveau numéro 1 fait preuve d'une grande retenue.
À partir de 1985, les choses commencent à bouger à l'intérieur de ce que l'on appelle le bloc de l'Est.
L'homme est à la fois souple et ferme. Il tourne aujourd'hui une nouvelle page de l'Union soviétique.
Le nouveau secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, parle transparence et restructuration, glasnost et perestroïka. En Hongrie, en Tchécoslovaquie, les régimes semblent vouloir se libéraliser. À l'été 1989, la Hongrie parle d'ouvrir sa frontière. C'est le premier véritable accroc dans le rideau de fer. Imre Csapó était garde-frontière à Sopron, en Hongrie, dernière ville avant l'Autriche. Il était l'un des rares gardes-frontières hongrois présents lors du fameux pique-nique pan-européen de Sopron. C'était le 19 août 1989.
Interception sur France Inter. Pour ce qui est de l'ouverture du rideau de fer, il faut remonter au 2 mai 1989. Notre chef des frontières nous avait dit, ce jour-là, que le rideau de fer allait s'ouvrir. C'était le 2 mai. Les gradés nous avaient prévenus. On nous a même montré comment ouvrir ce rideau de fer. On avait reconstruit une barrière et on s'exerçait à l'ouvrir en coupant les fils de fer. Et à peu près à ce moment-là, les Allemands de l'Allemagne de l'Est ont appris qu'on allait ouvrir la frontière à un moment ou à un autre. Ils ont commencé à venir en Hongrie. Il y avait de plus en plus de monde. On avait aussi reçu l'ordre de couper l'électricité du rideau de fer à partir du 2 mai. À partir de ce moment-là, les gens ont aussi pu se rendre physiquement jusqu'à la frontière. Les Allemands de l'Allemagne de l'Est venaient à Sopron officiellement comme touristes, mais ils n'avaient pas de visa pour passer en Autriche. Ils savaient que l'électricité avait été coupée et donc ils venaient jusqu'à la frontière et essayaient déjà de passer en se glissant sous la barrière, par exemple.
Donc, en fait, ils ont creusé sous la barrière et ils sont passés.
Oui, dès le mois de mai et pendant le mois de juin aussi. Il y avait des gens qu'on arrêtait. Mais à partir du 2 mai, on a été plutôt très très coulant avec les gens. Nous, les gardes frontières ou les militaires. On les arrêtait, on prenait leur nom, leur adresse avec beaucoup de « s'il vous plaît ». On leur demandait « s'il vous plaît, merci de rentrer chez vous » ou au moins d'aller ailleurs, en Hongrie, ne restez pas sur la zone frontière. Évidemment, ils s'en allaient et ils revenaient le lendemain ou quelques jours plus tard.
Le 19 août 1989, un vent de liberté soufflait en Europe centrale. En Hongrie, dans la commune de Sopron, à proximité de la frontière autrichienne, un pique-nique pan-européen est organisé pour accueillir les Allemands avant leur passage à l'Ouest.
Le pique-nique, c'était une sorte de test pour voir ce qui allait se passer quand si la frontière devait s'ouvrir. Quel était votre boulot ce jour-là ?
Eh bien, on contrôlait les gens, on a commencé le matin, il n'y avait pas trop de monde, mais ça a vite commencé à affluer. Les militaires, les gradés et même notre chef avaient décidé qu'ils ne voulaient plus entendre parler de cette histoire. Bref, ils n'étaient pas là. Nos plus hauts gradés sont restés chez eux, il n'y avait plus d'autorité. Les Allemands de l'Est sont juste arrivés, en masse, et vers 15h, c'était une vraie foule, impossible à contrôler. On les a laissés venir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On n'allait pas tirer. On a toujours dit que c'est nous, les Hongrois, qui avions ouvert les portes du rideau de fer pour laisser les Allemands passer. Mais c'est pas vrai. Les Allemands sont juste passés au travers. Ils ont ouvert le rideau de fer tout seuls et ils sont passés. Il y avait tellement de gens qui étaient là que ça s'est ouvert comme ça. Moi, je ne savais plus quoi faire. Trop de gens. On ne contrôlait rien. La première vague de personnes a passé la frontière en 15-20 minutes. Ensuite, on a recommencé les contrôles. Mais pendant ces 20 minutes, 870 personnes sont passées. Ce sont les Autrichiens qui les ont comptées.
Plus au nord, en Allemagne de l'Est, en septembre 1989, la très importante foire de Leipzig attire de nombreux Occidentaux en quête de nouveaux marchés. Quelques étudiants se rassemblent avec des banderoles réclamant la liberté de circuler. Durement réprimée par les autorités qui évoquent des voyous, cette manifestation en provoque une autre bien plus massive le lundi suivant avec pour slogan « Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes le peuple, wir sind das Volk ». C'est le début de la fin pour le régime en place. Miné en outre par des dissensions internes, le Parti communiste au pouvoir fait réprimer toutes ces manifestations devenues hebdomadaires. Le 23 octobre, elles réunissent pourtant encore 200 000 personnes et quelques dignitaires du régime prennent parti pour les manifestants. Devant la puissance du mouvement, le gouvernement est obligé d'annoncer quelques mesures de libéralisation.
Nous sommes sur la rue Bornholmer. Le 9 novembre 1989, c'est là, en fait, que le mur s'est ouvert une première fois. Aux alentours de 19h, l'un des patrons du Politburo du Parti communiste d'Allemagne de l'Est, Günther Schabowski, donne une conférence de presse internationale.
Nous connaissons le désir, le besoin de la population de voyager, voire de quitter la RDA. Nous avons donc décidé aujourd'hui de prendre une disposition qui permet à tout citoyen de la RDA de sortir du pays par les postes frontières de la RDA.
À partir de quand ?
Pour autant que je sache, immédiatement.
Ces déclarations sont reprises par les télévisions de l'Allemagne de l'Ouest, qui sont reçues à l'Est, et puis quasi immédiatement, des centaines de Berlinois de l'Est viennent se presser ici, sur cette Bornholmer Straße, et assez rapidement, le patron des douanes autorise le passage à quelques-uns, et puis la pression est trop forte. Sur le coup de 21h30, 22h, la barrière s'ouvre. Là, ce sont des milliers, et bientôt des dizaines de milliers de personnes qui franchissent la frontière, qui traversent ce que l'on appelle le Bösebrück, c'est-à-dire le pont de Böse qui est juste devant nous. On estime qu'environ 20 000 Berlinois de l'Est sont passés cette nuit-là à l'Ouest. C'était vraiment la première ouverture du mur de Berlin.
Le violoncelliste Vladimir Rostropovitch, venu seul ce samedi au pied du mur, fêter à sa manière l'événement avec pour seul compagnon son instrument.
Derrière le mur, la liberté, c'était un reportage d'Éric Biegala, réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, avec la collaboration ô combien précieuse de Ute Gaborio. Mixage, Kevin Pelot. La semaine prochaine, exploration des nouveaux modes de consommation avec un reportage de Faustine Calmel sur les supermarchés coopératifs.
Boing, 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 boing